Alors, l'amour est en effet redevenu un sujet pour philosophes. Il y a une inflation de parutions ces dernières années, il faut s'en réjouir. Il y a au premier rang ici quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'amour et qui a écrit des choses admirables, André Comte-Sponville. Mais je voudrais dédier cette séance à quelqu'un qui souhaitait venir ce soir et qui est retenu pour des raisons de santé, qui s'appelle Ruben Augien, qui a participé il y a quelques temps à une séance où nous avons parlé de l'amour et il aurait bien aimé venir ce soir, mais je le répète, son état de santé ne lui a pas permis de venir et je dois dire que c'est peut-être lors de la séance qu'il a consacrée à l'amour que quelques-unes des idées que je vais développer ce soir me sont venues à l'esprit. Alors je disais que l'amour est redevenu un sujet pour philosophes. Tant mieux, tant mieux. Bien sûr, ils ne feront jamais aussi bien que les littéraires. L'amour a inspiré les chants les plus déchirants, les meilleurs romans, les pires aussi, les comédies irrésistibles, des tragédies bouleversantes. Les sociologues aussi ont dit leurs mots, souvent en forme de désillusion, c'est leur rôle. Vous pensiez que c'était comme si, grand sentiment, éternité, c'est plutôt comme ça, casserole et classe sociale. Je pense néanmoins qu'il est encore possible aux philosophes de eux aussi dire leurs mots, quelques considérations sur le sujet, seulement des préliminaires, non pas à l'amour, ils n'ont là-dessus aucune expertise, mais à son concept, puisque c'est, dit-on, leur domaine, pour demander qu'est-ce que l'amour. Alors il est vrai que le concept paraît ambigu, l'amour se dit en effet en plusieurs sens, amour humain, amour divin, amour de l'amoureux, amour maternel, paternel, amour de la musique, de l'andouillette. Et de ces différents sens découlent quelques problèmes, considérés souvent comme préalables à toute analyse. Par exemple, est-ce qu'ils relèvent d'une même catégorie? L'un est-il plus vrai, plus originaire que l'autre, etc. Dans le même ordre d'idées, une autre voie, moins empruntée, permettrait d'analyser le rapport entre les différentes sortes d'amour en termes naturalistes. Il est possible que la théorie que je vais ébaucher soit passée par l'esprit de quelques théoriciens évolutionnistes. Par exemple, ce que les animaux humains nomment amour a deux bases naturelles, plus ou moins autonomes, héritées de l'évolution. Il y a d'abord l'instinct d'accouplement entre adultes pubères. Il y a ensuite la nécessité de soins des petits dépendants. L'une et l'autre de ces puissances d'action s'accompagne nécessairement d'affection qui, chez les animaux humains, devient l'expression subjective essentielle de ces besoins naturels au point d'apparaître comme leur cause ou d'être invoqué par eux comme étant leur cause. Ils croient copuler ou soigner parce qu'ils aiment, alors qu'ils aiment parce qu'ils sont naturellement déterminés à copuler et à soigner. L'amour ne serait donc qu'une ruse de la nature pour nous faire réaliser ses desseins. Il y aurait en tout cas un continuum naturel entre les deux pôles supposés de l'amour humain, la tension érotique vers autrui, avec tout son cortège de sentiments, d'affects, d'actions, de paroles, et le souci pour le petit dépendant, avec tout son cortège lui aussi de sentiments, d'affects, d'actions et de paroles. Ainsi, là encore, toute définition de l'amour au sens étroit, devrait commencer par le situer dans un genre plus large. Quoi qu'il en soit, les approches globales ou comparatistes dépassent mon ambition d'aujourd'hui. Les problèmes de définition posés par un seul type d'amour sont déjà, je crois, fort épineux. Il ne sera donc question, désormais, que de l'amour au sens que ce mot a dans les expressions « histoire d'amour », déclaration d'amour, film d'amour, chagrin d'amour, chanson d'amour, et ou dans les dérivés amoureux ou amant. Et je traiterai ce terme comme un concept autonome. C'est lui et lui seul que je chercherai à définir. Définir, c'est-à-dire, au sens très strict, formuler ce qu'il est lui et qui le distingue de ce qui n'est pas lui. Tâche lourde, ingrate, rarement entreprise, car on préfère souvent les notions floues, comme si le vague du concept ajoutait au charme de la chose. Ce n'est pas le cas à mes yeux. Alors, une des méthodes de définition les plus classiques, les plus fécondes même, remontant à Aristote et traversant toute l'histoire de la philosophie jusqu'à l'âge classique, consiste d'abord, comme vous le savez sans doute, à repérer le genre auquel appartient la chose définie, avant de déterminer ce qui la différencie des autres espèces du même genre. L'homme est un animal, mais rationnel. D'où première question, quel genre de chose est l'amour? Est-ce une émotion, puisque quand on est amoureux, on est ému d'une certaine manière? Mais de quelle émotion relève l'amour? Le désir, peut-être, puisque aimer quelqu'un, c'est le désirer. Mais n'est-ce pas éprouver quelque chose de plus durable que le simple désir, voire qu'une émotion fugace, donc un sentiment? Si oui, lequel? Le souci, par exemple, serait un bon candidat, selon certains, puisqu'aimer quelqu'un, c'est se soucier pour lui. Un autre candidat, plus proche de l'affect, serait la joie. L'amour pour autrui serait la joie que j'éprouve en y pensant ou en sa présence. N'est-ce pas plutôt une espèce de la passion, puisqu'on décrit souvent le sujet amoureux comme aveugle sur son objet, esclave de son penchant, privé de toute volonté raisonnable? Donc, l'amour serait une certaine passion. Mais on pourrait tout aussi bien dire que c'est plutôt une espèce d'action, ou même un motif d'action, l'amour s'évaluant à ses œuvres. Aimer, n'est-ce pas faire à autrui du bien, ou du moins vouloir en faire? Plus généralement, de quelle catégorie ontologique relève l'amour? Est-ce un état, ou plus précisément une disposition, celle du sujet amoureux? Est-ce une relation, celle existant entre les amants, par exemple? Là encore, on hésite. Et on fait bien d'hésiter. Car cette méthode, par genre et différence, comporte un inconvénient majeur. Excellent mode d'exposition d'une définition déjà connue, elle est un piètre mode de recherche d'une définition inconnue. Elle suppose la question résolue. Il faut déjà savoir ce qu'est l'amour, ou en avoir parfaitement déterminé les contours pour pouvoir concevoir le genre dont il relève. On se rangera donc à une deuxième méthode, moins exigeante. Elle ne nécessite pas de trouver préalablement le genre prochain, comme on dit, mais seulement de déterminer les conditions nécessaires et suffisantes de l'amour. Considérons par exemple les deux types de définitions de l'amour les plus communes et les plus discutées dans ce qu'on appelle la tradition de la philosophie analytique. La définition dite conative de l'amour par les actions qu'il nous fait faire et la définition affective de l'amour par les sentiments qu'il nous fait éprouver. Elles achoppent toutes sur des contre-exemples. Soit la définition conative de l'amour au sens large comme souci du bien de l'aimer ou désir d'œuvrer à son bonheur. Elle se heurte au fait que parfois, l'amoureux, par exemple quand il est jaloux, désire au contraire œuvrer à la perte de l'aimer, et qu'il ne laisse pas cependant d'aimer. Ainsi, Hermione s'écrit « qu'il périsse aussi bien il ne vit pas pour nous ». Soit la définition affective de l'amour, au sens large. Aimer implique, par exemple, éprouver de la joie en présence de l'aimé. Mais là encore, il y a des contre-exemples. Qui ne connaît ces amants qui, à l'instar du couple de Qui a peur de Virginia Woolf, ne peuvent plus se supporter et n'arrêtent pas de se quereller violemment? Ils semblent relever du fameux paradoxe des amours d'Ovide, ni sans toi ni avec toi. Ils ne laissent pas cependant de s'aimer puisqu'ils ne peuvent vivre ni penser l'un sans l'autre. Alors supposons qu'on trouve finalement une formule parfaite, répondant à ces exigences, énoncer toutes les propriétés et seulement elles de l'amour. On pourrait néanmoins critiquer dans son principe la théorie qui la sous-tend. Car cette méthode, toute méthode comparable, échoue à définir des notions même parfaitement claires et distinctes, mais issues des langues naturelles, dans lesquelles le rapport entre le concept et les individus qu'il subsume est d'intensité variable, ou si l'on préfère, pour être un tout petit peu plus rigoureux, dont les propriétés paraissent plus ou moins instanciées. C'est ce qu'on peut retenir de la notion wittgensteinienne d'air de famille. Je rappelle que entre les individus réunis sur une photo de famille, il n'y a peut-être aucun trait commun, même si l'un ressemble fortement par tel trait à un autre, qui lui ressemble à un troisième par un autre trait, le même que celui par lequel il ressemble un peu moins à un quatrième, pourtant ils semblent tous apparentés. Cette théorie philosophique de la référence peut recevoir une confirmation des travaux de psychologie cognitive sur la catégorisation naturelle d'Eleanor Roche. Quand nous apprenons à catégoriser les choses, nous ne procédons pas par ses bords, si je puis dire. La pomme, par exemple, nous semble plus un fruit que la tomate ou l'avocat, et plus que le marron, ou que l'olive, ou que les akènes, qui sont les fruits du platane. Tout se passe comme si l'on pouvait être plus ou moins fruit, selon qu'on se rapproche ou qu'on s'éloigne du centre prototypique de cette notion, laquelle rassemble le plus de traits caractéristiques du fruit, selon l'usage naturel que nous en faisons dans la langue. Certes, un fruit, comme dit une définition de dictionnaire, c'est la partie d'une plante produite après la floraison, mais c'est aussi souvent, dans la langue ordinaire, un aliment. En outre, celui-ci a souvent une saveur sucrée. En plus, il est souvent consommé cru, etc. Donc au centre de la notion, il y a un prototype, la pomme ou l'orange, qui possède tous les caractères, mais une définition du prototype se heurtera toujours à des contre-exemples, car beaucoup de fruits ne se mangent pas, ou n'ont pas de saveur sucrée, ou se consomment exclusivement cuits, etc. Ils sont fruits pourtant, mais nous semblent moins fruits. Donc, tirons de cette analyse la conclusion suivante, des contre-exemples ne permettent pas de réfuter la définition d'un concept si l'on entend par là l'ensemble des traits caractéristiques réunis par le prototype, mais dont certains peuvent manquer dans les cas marginaux, qui ne laissent pas pourtant d'être subsumés sous le concept. Donc nous cherchons une méthode de définition de l'amour qui prenne en compte les deux leçons de la théorie du prototype dans la catégorisation naturelle. La leçon négative, un contre-exemple ne peut pas valoir contre une formule qui s'applique le plus souvent, mais non toujours. La leçon positive, il y a du plus ou moins dans l'amour, comme dans les fruits. Plus exactement, concernant l'amour, il y a du plus ou moins de deux sortes, une intensité de la chose même, on peut aimer plus ou moins fort, ce qui ne pose pas de problème particulier, et une intensité de la réalisation du concept. Ainsi, tel amour particulier sera plus éloigné du prototype s'il possède moins de traits caractéristiques. Par exemple, de même que le marron nous semble moins fruit que la pomme, l'amour du jaloux qui désire faire du mal à l'aimé, bien qu'indiscutablement amour, nous paraît plus éloigné du prototype que l'amour de celui qui désire faire du bien à l'aimé. De même, l'amour névrosé des amants qui ne se supportent plus l'un l'autre est sans doute encore de l'amour, mais moins typique que celui dans lequel l'amant éprouve de la joie à la présence de l'aimé. Il suffirait donc d'énumérer l'ensemble des caractéristiques de l'amour prototypique pour définir toutes les amours possibles à proportion de leur éloignement du centre de la cible. Et pourtant, cette solution, je ne la retiendrai pas car elle présente un défaut rédhibitoire. Car à supposer, là encore, qu'on trouve une formule parfaite réunissant les caractères typiques de l'amour, on pourrait néanmoins critiquer dans son principe, là encore, la théorie qui la sous-tend. Et pour des raisons symétriques de celles qu'on opposait à la méthode par conditions nécessaires et suffisantes. Si l'on admet en effet le principe selon lequel est encore amour tout ce qui s'éloigne du prototype, jusqu'où peut-on aller ? Pour les fruits, par exemple, il n'y a pas de problème, car le bon usage de la notion est limité par le sens le plus large, la définition, appelons-la, scientifique du fruit, la partie d'une plante produite après la floraison. Mais pour l'amour, n'importe quoi, n'importe quel sentiment, souci, l'indifférence même pourrait être dit plus ou moins amour, à la limite, comme on dit. Mais justement, il n'y aurait plus de limite. Il n'y aurait donc plus de définition, si l'on entend justement par là la claire délimitation d'un concept qui permette de dire si l'amour, c'est ça ou non. Nous disposons donc de deux méthodes aussi infructueuses l'une que l'autre. Celle par les conditions nécessaires et suffisantes est trop exigeante, elle est refutée par le moindre contre-exemple, atypique. Celle par prototype est au contraire trop laxiste, si l'on peut dire, elle ne permet pas de délimiter clairement ce qui est dans le concept et ce qui est en dehors. On ne sait plus de quoi on parle. Il nous faudrait donc une méthode qui réunisse les avantages et éviterait les inconvénients des deux précédentes, être aussi libérale que l'approche par prototype, tout en étant aussi rigoureuse que les définitions classiques. Cela semble difficile, l'amour serait-il donc indéfinissable, ou y a-t-il une autre voie? C'est celle que je vais désormais vous proposer. Alors, il est vrai qu'il n'y a pas de prototype de l'amour, sinon on entend par là quelque chose qui permettrait d'appliquer une méthode par cercle concentrique avec le prototype au milieu. Par contre, il y a trois traits définitionnels de l'amour. Ils ne peuvent pas jouer le rôle de centre ou de prototype, mais peuvent à la fois servir de borne et de tendance caractéristique. Ce sont les suivants. Amitié, désir, passion. Aucune de ces bornes ne peut assumer une fonction de prototype, puisque l'amour n'est justement, évidemment, ni l'amitié, ni le désir, ni la simple passion. Ce sont donc des bornes externes au concept d'amour. Pour la même raison, aucune de ces bornes, aucune de ces caractéristiques ne peut jouer le rôle de genre, dont l'amour serait une espèce. En revanche, amitié, désir et passion peuvent constituer des tendances internes à l'amour. Afin de les distinguer des bornes externes homonymes, qui ne sont pas l'amour, j'appellerai ces tendances internes l'amical, le désirant et le passionnel. Alors, en première analyse, on pourrait dire, par exemple, et ce serait faux, que l'amour est une sorte d'amitié à laquelle s'ajoute une autre composante essentielle, le désir. Qu'est-ce que, selon toute apparence, l'amour doit à l'amitié? Que peut-il avoir d'amical, l'amour? Trois traits, lesquels caractérisent à peu près l'amitié depuis Aristote. 1. C'est une relation élective à autrui, à telle personne parce qu'elle est la personne qu'elle est. L'amitié est une relation singulière à l'ami en tant qu'il est cet ami, comme l'amour est une relation à l'élu, lui et non un autre. Et ces deux relations, si on peut dire, s'opposent tant aux relations singulières non choisies, le copain de classe, le collègue de travail, le voisin de palier, qu'à ces relations universelles où l'on ne doit pas faire exception de personne. La charité, par exemple, est censée nous enjoindre de traiter tous les autres également avec le même amour, et la justice nous enjoint de les traiter à proportion de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils font. Car toute formule de justice revient, au fond, à la formule « à chacun selon son X, vertu, mérite, travail, participation à la communauté », ce que vous voulez. Mais ni l'amitié, ni l'amour ne nous enjoignent quoi que ce soit. Ils ne sont pas des devoirs, ni peut-être même des vertus, on y reviendra. Ils ne sont ni charitables, ni justes. Ils sont même injustes. De là, tant de conflits de devoirs. Dois-je à l'ami ou à l'aimé parce que c'est lui, ou à tous également? D'un côté, le risque de trahison, d'un autre, l'accusation de favoritisme. Alors, deuxièmement, L'ami n'est ni le voisin, bonjour, bonsoir, ni le concitoyen, avec qui être juste, ni le prochain, avec qui être charitable. Ce n'est pas n'importe qui, je l'ai choisi, ou plutôt nous sommes choisis. C'est un autre moi-même, selon la belle formule d'Aristote, qui malheureusement est devenue un cliché, mais qui a un sens très profond, que je vais simplement rappeler. L'ami me permet, en effet, de ne plus coller immédiatement à ce que je vis, à ce que je fais, mais de prendre conscience que je le vis, que je le fais, c'est-à-dire que je le pense et que je le fais, en le partageant avec lui sous son regard. L'ami, pour le dire d'une autre formule, est la médiation réflexive entre moi et moi-même. Il en va de même de l'aimer, du moins, et je devrais le dire à chaque fois, le plus souvent. Vous avez compris maintenant pourquoi j'emploierai cette formule. L'amoureux ne fait-il pas généralement sien le monde subjectif de l'aimer ? D'un côté, il absolutise la différence de l'aimer avec lui-même, il est autre que moi. Et d'un autre côté, il se projette en lui pour abolir toute différence. Au fond, je suis comme lui. L'aimer est, le plus souvent, tout à fait autre et parfaitement même à la fois. Alors, deuxième trait maintenant que l'amour partage avec l'amitié. Le plus souvent, mais non toujours. L'ami, l'amoureux, éprouve de la joie, la compagnie de l'aimé ou de l'ami. Il partage impressions fugitives ou convictions profondes, moments d'exaltation ou de doute, petit bonheur ou grand malheur. Comme ils se feraient des cadeaux, ils échangent des confidences sur eux-mêmes ou sur les autres. Ils parlent à voix basse au milieu des autres pour s'en isoler. C'est le fait des amitiés établies ou au contraire des amours naissantes, le plus souvent. Amitié et amour, troisièmement, sont enfin des motifs d'action. L'ami et l'amoureux se soucient de l'ami ou de l'aimer pour lui-même et s'efforcent de lui faire du bien, de l'aider, le secourir, l'assister, le consoler. C'est aussi vrai de l'aimer, le plus souvent, que de l'ami. On l'aime, ce qui implique qu'on lui veut du bien. Et qu'on agit pour lui, et qu'on agit pour lui en faire, non pour soi, mais pour lui. Ce sont là, semble-t-il, les œuvres communes de l'amour et de l'amitié, le plus souvent. Cependant, comme chacun sait, l'amoureux se distingue de l'ami sur un point essentiel évident, le désir physique, sexuel, ou du moins charnel. L'amoureux désire toucher l'aimé, baiser son visage ou ses mains, l'étreindre, l'embrasser, le caresser, en fin de compte, faire l'amour avec lui, comme dit cette heureuse expression. Pas d'amour sans éros, le plus souvent. Une amitié sans désir n'a rien de l'amour, c'est une amitié. De même, un désir sans amitié est un désir, point. Il y a des plans cul qui peuvent être fort plaisants, mais que nul nommerait amour. Il y a aussi des viols, qui sont une manifestation indiscutable, quoique criminelle, du désir sexuel, notamment masculin, mais qui sont la négation même de l'amour. Il y a une dimension amicale ou désirante de l'amour, mais amitié et désir, je le répète, demeurent des bornes externes à l'amour, lequel serait donc une sorte d'amitié désirante ou de désir amical. À cette analyse initial, on fera évidemment une objection, ou du moins une réserve évidente, c'est qu'il manque à cette pseudo-définition une troisième composante essentielle de l'amour, la passion. Définissons la passion comme un état affectif intense, focalisé sur une chose, l'argent, les voitures, la musique, sur une activité, le jeu, la drague, le football, sur une personne, et en l'occurrence, il s'agit nécessairement d'une personne. État affectif s'emparant de l'esprit d'un sujet en dépit de sa volonté et de sa raison. Il est accro, comme on dit. L'expression est familière, mais tout à fait appropriée. Pourtant, comme chacun sait, la passion n'est pas seulement aliénante. Elle colore tout état d'âme et rehausse toute émotion. Elle rend à la fois lucide, voire extra-lucide et complètement aveugle. Elle se mesure dans l'espace et le temps. Combien de kilomètres puis-je parcourir pour retrouver l'objet de ma passion une heure? Combien d'heures par jour sa pensée me tient? Combien de temps faut-il attendre une réponse à un mail ou un SMS? L'emprise de l'autre se mesure tantôt à sa présence, tantôt à son absence. La passion, c'est bien connu, envahit, ronge, dévore ses victimes, pourtant consentantes. Car si l'ami est un autre moi-même, la passion, c'est l'inverse, c'est moi en tant qu'autre. Mais là encore, on remarquera que la passion pour une personne n'est pas à elle seule l'amour. On peut haïr passionnément quelqu'un jusqu'à la hantise. Pensons aux grands haineux, les Médée, les Néron. On peut l'envier passionnellement jusqu'à l'obsession. Pensons à la cousine bête, sans qu'il y ait la moindre composante amicale ou désirante. Il faut donc que la passion se colore d'amitié ou de désir pour qu'on parle d'amour. Il y a du passionnel dans l'amour, mais la passion n'est pas l'amour, elle en est là encore une borne externe. Ainsi, l'amour se distingue et même s'oppose affectivement ou connativement à chacun ou à chacune des trois composantes prises à part, amitié, désir, passion, mais résulte pourtant de la fusion de ces trois tendances. Nous aurions donc un triangle de l'amour qui se présente ainsi avec trois bornes externes auxquelles correspondent trois bornes internes. Le N, je ne sais pas pourquoi il est passé en dessous, passion. Passion, amitié, désir. Alors ça, c'est les bornes externes, ça n'est pas l'amour, et voilà. Alors, quelques règles pour la définition qui vont nous y conduire. Premièrement, l'amour complet conceptuellement, c'est la somme algébrique des trois tendances. Le prototype, si l'on veut un, serait le centre du triangle. Par exemple, ou par convention, j'ai lu que récemment c'était considéré par beaucoup comme l'espèce de prototype du roman d'amour du XXe siècle, donc Solal et Ariane dans Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Bien entendu, un amour peut être conceptuellement complet et d'intensité forte ou faible, cela non plus n'a rien à voir. Sa position géographique sur le triangle définit sa qualité et non sa quantité. Il y a des amourettes parfaites, un peu d'affection, un peu de sexe, une petite flamme quand même. Il y a des grandes amours déséquilibrées, d'un côté ou d'un autre. Trop d'aliénation passionnelle, trop de dépendance sexuelle, trop d'attachement amical. Deuxième conséquence, la variabilité infinie des formes d'amour s'explique par la variabilité quantitative et qualitative des trois composantes. Tout amour singulier, à un moment donné, a donc sa place unique sur le triangle, quelque part, comme sur une nouvelle carte du tendre. Il y a des amours qui sont plutôt amicales, d'autres plutôt désirantes, ou plutôt passionnelles, et dans lesquelles les deux autres composantes sont plus ou moins estompées. D'ailleurs, n'essentialisons pas. Les amours évoluent sans cesse. Un trajet assez banal va du désirant, coup de foudre, au passionnel, monomanie, pour s'achever plus près de l'amical, le couple. Mais tout autre trajet est possible. L'histoire peut débuter en copinage, passer assez vite au sexe, pour devenir avec le temps exclusive et tourmentée. Il y a tant de chemins sur la carte du tendre, autant que ceux qui y mènent ou que ceux qui en partent. Alors, quand on s'approche de l'amical, un peu plus près, on a des amours tranquilles, souvent partagés, style Paul et Virginie, avant leur séparation forcée. Quand on s'approche du passionnel, on a des amours exaltés, souvent déchirés, comme Roméo et Juliette. Quand on s'approche du désirant, on a des amours violemment charnels, souvent asociales et associés dans les littératures à l'adultère et à la transgression des normes, genre Tristan et Iseut. Et chacune de ces tendances est pour chaque amour son point de fragilité. Plutôt amical, il atterrit souvent en douceur. On reste copain. C'est mon ex. Plutôt passionnel, il n'en finit pas de finir. Déjà terminé, toujours interminable, oscillant du « ni avec toi » au « ni sans toi ». Plutôt charnel, il s'achève parfois par lassitude lucide, Finalement, il ou elle n'était pas mon genre. Une seule composante, donc, l'amitié, le désir, la passion, n'est pas l'amour. Trois composantes, quelle qu'en soit la proportion, est le cas général et typique, le plus souvent. Deux composantes au moins sont nécessaires à la définition, mais peuvent, dans des cas particuliers, s'avérer suffisantes. La troisième tendant asymptotiquement à s'annuler, comme je vais le montrer. C'est ce qu'on pourrait appeler des amours conceptuellement incomplètes, ce qui n'altère d'ailleurs pas leur qualité, ni ne diminue leur intensité. Si vous me suivez, il y aurait a priori trois types d'amours incomplètes. L'amour sans amitié, sans passion et sans désir. On pourrait parler d'amour lorsqu'il y a du désirant et du passionnel, mais rien d'amical. C'est-à-dire sans aucun des trois traits de l'amitié. Autre soi, dans la présence réjouie et à qui on s'efforce de faire du bien. C'est ce que montre un certain nombre de tragédies classiques, notamment Racine, Phèdre ou contemporaine, l'Empire des Sens d'Oshima. Ces deux exemples pourraient constituer d'ailleurs deux figures symétriques, l'érotisme passionnel ou la passion érotique. Voilà. Je rappelle que la dépendance érotique de Sada et Kishizo dans l'Empire des Sens les fait progressivement glisser dans une folie sans bienveillance et que le drame s'achève par le meurtre et l'émasculation rituelle de Kishizo par Sada qui écrit sur la poitrine de son amant avec son sang « Sada et Kishi maintenant unis ». Il n'y a plus d'autre soi-même, il n'y a plus que du même et de l'un dans l'érotisme passionnel. Symétriquement, Phèdre... C'est la passion érotique. Aimer, ce n'est pas être l'ami d'un autre soi-même, c'est être ennemi de soi, de soi-même, à cause d'un autre. Aucune joie à la présence de l'aimer, seulement l'horreur de l'aimer. L'érotisme fou, comme la folie érotisée, se passe, le plus souvent, des manifestations ordinaires de l'amitié. Joie de la présence de l'ami, désir de lui faire du bien. Il peut même se réaliser par leur contraire. Aucune bienveillance envers l'aimé, mais de l'agressivité. Nulle joie à le voir, mais de la tension, de la souffrance ou de l'angoisse. Alors un amour imparfait du deuxième type serait sans désir. C'est le côté gauche du triangle. Est-ce possible? A priori, on en distinguerait deux figures, l'inertie du désir ou son épuisement. L'épuisement, c'est celle de ces vieux amants qui vivent une affection fusionnelle, dont l'éros s'est apaisé et dans laquelle l'amitié ne se distingue plus de la passion qui s'est, si l'on peut dire, enquistée en eux. Le soi et l'autre, de l'autre soi-même, se mêlent sous l'effet d'une passion immémoriale, chacun pensant pour lui-même et par l'autre, vivant par lui-même et pour l'autre, tandis que tout désir proprement sexuel s'est doucement évanoui. La chair de l'un, hélas, de l'autre. Les esprits sont presque devenus un, les corps sont presque devenus deux. Alors, cette figure du déjà plus a pour pendant symétrique celle du pas encore. C'est le cas, s'il existe, de l'amour platonique, selon l'expression de Marcille Ficin, un amour qui ne se sait pas aventurer à s'exprimer en une attraction charnelle. Dira-t-on que le désir est sublimé? Dira-t-on qu'il est refoulé? Quoi qu'il en soit, une amitié passionnée, voire passionnelle, attire sans cesse l'amant vers l'aimé. Des exemples d'une telle amitié dévorante, mais sans désir sexuel du moins explicite, conscient ou assumé, se trouverait dans ces relations dites autrefois particulières à tendance homosexuelle, comme celle qui lia Friedrich Nietzsche à Richard Wagner pendant 7 ans. Du moins, si l'on en croit, le témoignage d'Elisabeth Förster Nietzsche, qui fait état de confidence de son frère Nietzsche sur cette immense passion amicale, infiniment plus violente, disait-il, que celle existant entre amants. De même, je passe au troisième côté du triangle. Ne peut-on appeler amour une fusion du désirant et de l'amical mais sans passion. Beaucoup d'intimité comme il s'y est entre amis, des rapports sexuels comme il convient entre amants, mais sans obsession, on ne se prend pas la tête. Sans possession, parfois même sans exclusivité, on passe ainsi parfois de l'amitié, c'est un copain, à l'amour, c'est mon copain, qui peut ou non se teinter, selon les cas, d'un véritable entrain qui va rarement jusqu'à l'ardeur. Deux figures symétriques, l'amitié faite chair ou le libertinage complice. L'amitié charnelle, qui s'efforce d'unir la stabilité de l'amitié aux plaisirs innocents de la jouissance partagée, du type Sex Friends, beaucoup de films là-dessus, ou l'étroite connivence des libertins en recherche continuelle de nouvelles expériences sexuelles, comme dans les romans d'Henry Miller. Tout cela sans passion, sans jalousie, sans exigence d'exclusivité, sans revendication ni possession, peut se teinter d'ébauche, de communauté, de rêve, de trio, avant de se dissoudre doucement ou de s'achever tragiquement à la Jules et Jim, comme une liaison dangereuse. Ces figures incomplètes, ces six figures incomplètes, figurées là par ces ellipses, sont-elles de l'amour ou seulement son ombre ? La question se pose en effet, et elle est de celle dont raffolent les magazines féminins. Le désir peut-il faire bon ménage avec l'amitié ? Ou la passion, quelle qu'elle soit, exaltante, tourmentée, soupçonneuse, vient-elle forcément s'immiscer dans la relation ? Serait-ce alors le début d'un amour standard ou la fin d'un amour marginal ? Ni l'amitié, ni la passion, ni le désir ne sont donc l'amour. Les sommets du triangle sont ces bornes externes, je le répète. Il y a amour, dans la majorité des cas, lorsqu'il y a fusion à quelques degrés que ce soit des trois composantes, l'amicale, la passionnelle et la désirante. Et on peut discuter pour savoir si sont aussi amour les cas limites lorsque se mêlent deux de ces composantes et que la troisième semble s'en être absentée. Les côtés du triangle sont les limites à la fois internes et externes de la carte du tendre. En une formule, on pourrait dire, si on cherche une formule définitionnelle, l'amour est, je ne suis pas très content, elle est un peu lourde, mais enfin bon, tâcherai d'améliorer. L'amour est la fusion instable, en proportion variable, d'au moins deux des trois éléments hétérogènes que sont l'amical, le désirant et le passionnel. Alors nous souhaitions une formule définitionnelle ou une méthode qui réunisse les avantages de la méthode par condition nécessaire et suffisante et celle par prototype. Eh bien, si vous m'avez suivi jusqu'ici, cela semble être le cas. Notre définition met en évidence qu'un concept peut être plus ou moins instancié, selon qu'il réunit plus ou moins de caractéristiques du cas général. C'est la différence entre les cas centraux et de l'amour et les cas marginaux. Cette définition permet de délimiter clairement et distinctement ce qui est amour, tout point situé sur la carte triangulaire du tendre, y compris à la limite sur n'importe quel côté, et ce qui ne l'est pas, tout point situé à l'extérieur du triangle ou confondu avec un de ses sommets. On a donc défini l'amour. La belle affaire, direz-vous. Mais l'exercice n'est peut-être pas si vain qu'il n'y paraît, car de cette définition, il est peut-être possible de tirer quelques éclaircissements sur certaines de ses propriétés qui, sans elles, demeureraient mystérieuse. Du moins, c'est ce que je pense. Alors, je rappelle qu'il ne s'agit pas de mélanger divers ingrédients, amitié, désir, passion, en certaines quantités pour obtenir de l'amour, comme dans une recette de cuisine. L'idée est plutôt que dès lors qu'il y a fusion conceptuelle d'un des éléments avec l'un ou les deux autres, il en résulte, comme dans un être vivant, une unité émergente d'un type nouveau dans lequel les ingrédients initiaux sont méconnaissables. Par exemple, lorsque la passion est mêlée à de l'amical ou à du désirant, au point de devenir amour, elle cesse de n'être, cette passion, qu'une tension obsédante occupant l'esprit du sujet et altérant sa rationalité. Elle devient, sous l'effet de la joie amicale ou de la tension du désir, un état d'allégresse profuse qui démultiplie ses puissances d'agir. Deuxième exemple, le désir sexuel. Lorsqu'il est mené conceptuellement à de l'amical ou à du passionnel, au point de devenir amoureux, il se transforme en aspiration insatiable, inspiration à la fusion de deux mois, à l'union substantielle, des deux unions substantielles d'âme et de corps. Et alors, il peut se faire tendresse, du moins lorsqu'il cesse d'être impérieux, amoureux, le sexe n'est plus le besoin tyrannique de faire sien quelque autre, il est le désir de s'unir à tel autre, qui est lui-même, comme moi, un sujet de désir, faire un autre tout avec l'autre moi-même amical. De là, les attentions érotiques maladroites ou les gaucheries respectueuses des amoureux débutants. Mais la plus claire métamorphose conceptuelle concerne l'amitié. On a dit que l'amour pouvait en première analyse se définir comme amitié désirante ou désir amical. C'est vrai, si l'on entend par là, qu'on peut retrouver dans l'amour typique trois des caractéristiques de l'amitié que je rappelle une fois de plus, relation élective, joie de la présence, souci de l'autre. C'est faux si l'on entend par là que l'amour est une espèce d'amitié, car l'amitié ne peut être le genre dont l'amour serait une espèce, pour une raison simple mais aux conséquences considérables. L'amitié est par définition une relation réciproque, l'amour est conceptuellement à sens unique. Vous pouvez vouloir être ami de quelqu'un, mais vous ne pouvez pas l'être sans que cet ami le soit aussi de vous. Un ami sans ami est une contradiction dans les termes, mais un amoureux non aimé est une situation extrêmement banale qui constitue un des thèmes privilégiés de la tragédie comme de la farce. Le doute sur la réciprocité est d'ailleurs l'éthos permanent de l'amant, l'inquiétude. Suis-je aimé? Serai-je aimé? M'aime-t-on autant que j'aime et comme j'aime? Car c'est précisément parce que l'amour n'est pas essentiellement réciproque qu'il cherche sans cesse à le devenir. Le plus grand effort de l'amoureux, c'est de se faire aimer. Tout cadeau à l'aimer est à la fois une offre altruiste et une demande égoïste de réciprocité, avec tous les paradoxes bien analysés par Sartre. L'amoureux demande à l'autre non pas seulement qu'il le désire, même qu'il aime, des actions qui ne se commandent pas, puisque ce ne sont pas des actions, justement. Mais il demande bien davantage. Il exige de lui qu'il désire et qu'il aime librement. Des affections qu'on ne peut pas exiger sans contradiction, parce qu'elles supposeraient qu'à la fois on réponde à cette injonction « aimer » et qu'on n'y réponde pas « obéir ». Alors, d'où vient que l'amour soit pris ainsi dans cette double contrainte? Il me semble que notre définition de l'amour permet de le comprendre. L'amour, avons-nous dit, est la fusion intime de deux composantes hétérogènes, au moins le désirant et l'amical. Désir de l'autre en tant qu'autre et amitié comme relation avec l'autre. Il y a là une tension, voire une contradiction. Du premier élément, l'amour hérite d'être essentiellement à sens unique, mais du second, il hérite l'aspiration à la réciprocité. Si l'amour était désir, simple désir, il se contenterait de la possession, mais il désire l'autre comme autre, non pas asservi au désir qui est le sien, mais libre comme l'ami, un autre soi-même, aussi libre que lui-même, avec qui on dialogue et avec qui on peut échanger. Reste à comprendre, même dans la description qu'en fait Sartre, pourquoi l'amant peut-il vouloir de l'autre sa libre aliénation? Eh bien, c'est dû à la troisième composante. C'est que l'amant vit lui-même sur ce mode et qu'il éprouve son propre amour comme une aliénation consentie. Et cela s'explique, cette fois, par le fait que l'amour est fusion du passionnel et de l'amical. L'amant éprouve le plus souvent sa passion pour l'autre comme une aliénation de sa propre liberté, puisque c'est une passion, et pourtant il la vit comme librement acceptée parce qu'il ne voit en elle que l'effet des qualités et des vertus de l'autre, comme si c'était un ami. Alors, il y a aussi quelques conséquences éthiques qui peuvent se tirer de cette définition extrêmement instable que j'ai tenté de donner de l'amour. Des trois composantes de l'amour, je l'ai dit, il n'y a que l'amical qui soit essentiellement réciproque. Les deux autres ne le sont pas. Ou elles ne le sont que par accident. Heureux, sans doute. Conséquence, il y a une éthique de l'amitié, la loyauté. Trahir un ami, c'est rompre le contrat moral implicite de l'amitié, puisque celle-ci se confond avec cette relation même. On pardonnera donc plus facilement à l'aimé qu'à l'ami, car on peut continuer d'aimer l'infidèle, alors qu'on ne peut plus être l'ami de l'ami déloyal. En revanche, il n'y a pas d'éthique de l'amour. Des vertus, sans doute, mais pas de normes. L'amour n'étant qu'accidentellement une relation, on ne peut être infidèle ou déloyal vis-à-vis de l'aimé en tant qu'aimé. Certes, on peut trahir ses engagements à l'égard de qui que ce soit, y compris de l'aimé d'ailleurs. Car c'est dans tous les cas une conduite odieuse, et plus encore lorsqu'elle est blessante ou offensante. Mais rien dans l'amour lui-même n'oblige l'amant en tant qu'amant, si ce n'est justement la dimension généralement, mais pas toujours, amicale de l'amour qui engage l'amant à la loyauté définissant l'amitié. Celle-ci incite aussi l'amant à désirer faire le bien de l'aimer et à le faire effectivement. Mais cesse-t-il de le désirer et donc de le faire parce qu'il cesse d'aimer, il n'y a rien là qui contrevienne à quelque éthique que ce soit. Il se trouve pourtant que lorsque l'amour est réciproque, aussi réciproque que l'amitié, les amants constituent d'un accord implicite ou explicite un « nous », c'est-à-dire une communauté de préoccupations, de soucis ou d'intérêts. Chacun d'eux agit pour ce « nous », et parfois jusqu'à la confusion des « moi », tant qu'il s'y trouve engagé. C'est évidemment à ce « nous » existant entre amants, et parfois entre amis, que chacun est tenu d'être fidèle ou loyal. Mais il ne s'agit plus à proprement parler de l'éthique propre à l'amour, mais de l'éthique constitutive d'un « nous », quelle qu'en soit la nature. L'amour a pu en être à l'origine, mais il ne se confond pas avec lui. Et enfin, finalement, ne confondons pas la loyauté, vertu constitutive de l'amitié, y compris celle qui peut unir les amants. La fidélité, vertu constitutive de toute communauté, qui peut être aussi celle fragile que forment les amants. Et l'allégeance contractuelle entre conjoints unis juridiquement. Ni la loyauté, ni la fidélité ne font partie des vertus de l'amoureux. Quelles sont ces vertus? Elles se nomment plutôt douceur, bienveillance, patience, compréhension, indulgence, désintéressement, dévouement, abnégation, sacrifice, etc., toute vertu asymétrique par définition. Car nul ne peut être tenu d'aimer, de continuer à aimer, d'aimer encore, d'aimer toujours. Tel est le drame connu qui incite chacun à se lier pour toujours à celui qu'il aime présentement. Alors, si l'amour n'est pas réciproque par définition, c'est que deux de ses composantes, dont une au moins est nécessaire à sa définition, ne le sont pas. Vous désirez X, mais il n'y a aucune raison que X vous désire. Êtes-vous beau? Avez-vous d'autres titres de désirabilité à faire valoir? Vous êtes passionné par Y, pour telle ou telle raison, soit parce qu'il vous semble admirable ou pour tout autre motif rationnel, soit parce qu'il louche, pour reprendre l'exemple de Descartes, ou tout autre motif irrationnel. Mais il n'y a aucune raison qu'on vous trouve admirable ou intéressant. En fait, cette différence qualitative entre l'amitié, le désir et la passion nous met sur la voie d'une différence essentielle, qui est qu'entre ces trois entités, il y a une différence, je risque le mot, ontologique. Elles n'appartiennent pas à la même catégorie de l'être. Et tout le problème de l'amour est là. L'amitié est une relation, la passion est un état, le désir est une disposition. Dans l'amitié, l'autre est un autre moi. Dans la passion, l'autre est en moi. Dans le désir, le moi est tendu vers l'autre. L'amitié est une relation qui précède et détermine les termes qu'elle relie, comme frère. Elle n'existe ni chez l'un ni chez l'autre, mais entre eux. Elle est donc stable par hypothèse, même si elle peut avoir aussi son histoire. La passion est l'état d'un sujet dont elle altère la rationalité des croyances et des désirs, tout en exaltant, on l'a vu, ses puissances d'agir. Elle est donc stable, mais le sujet qu'elle possède est instable. Le désir sexuel est une certaine disposition d'un sujet à l'égard d'un autre sujet, mais pris comme objet. Comme tout désir, il est dynamiquement instable, il va et vient, de défaut en satiété, tout entier tendu vers un objet qu'il s'efforce de posséder, mais dont la possession même ne peut le satisfaire, puisque la valeur de son objectif décline dès qu'il est atteint. Au contraire de la passion dont tout l'être est de continuer à être, tout l'être du désir est de tendre à ne pas être. Voulant être satisfait, il se réalise pour cesser et cesse en se réalisant. Le désir est donc aussi instable que le sujet qu'il anime. L'amour, quelle qu'en soit donc sa variante, n'est donc toujours d'une hétérogénéité radicale entre ses composantes. Si elles peuvent fusionner pour constituer de nouvelles entités chimiquement impures, nommées amour, celles-ci sont fondamentalement précaires et instables. De cette différence ontologique entre amitié, désir et passion, et l'amour qui en résulte, il est possible de tirer enfin quelques leçons métaphysiques. Alors, contrairement à ce qu'on dit parfois, le désir sexuel nu, en tant que tel, n'est pas le simple désir d'un corps, c'est le désir d'un sujet pour un sujet, car on ne désire pas une machine, même le violeur a besoin de sentir la subjectivité de sa victime. Désir d'un sujet pour un sujet, mais convoité physiquement comme un objet, pour le meilleur, le plaisir partagé, ou pour le pire, la violence machiste. Aimer l'ami, c'est désirer être avec lui et lui faire du bien. Ce n'est pas le désirer, lui, c'est l'aimer comme un autre sujet, un autre esprit. Quelle entité peut donc résulter d'une fusion improbable du désirant et de l'amical ? Alors, aimer quelqu'un d'amour, c'est ne pas pouvoir le différencier de son corps, c'est le concevoir comme un tout indissociable, c'est aimer, disons, la personne incarnée. Je dirais que l'amour est moniste par essence, en ce sens que pour l'amant, l'esprit et le corps de l'aimé sont une seule et même chose. L'amitié est dualiste par défaut, en ce sens qu'elle ne lie que l'esprit des amis. Je dirais les choses d'une autre manière. Une preuve métaphysique du monisme, c'est l'amour. Sans l'amour, nous pourrions toujours imaginer, par quelque expérience de pensée, qu'autrui est duel, l'esprit et le corps. Comme le montre Descartes en prenant l'exemple de la blessure, je sais que je ne suis pas dans mon corps comme un pilote dans son navire qui apercevrait hors de lui la rupture de son vaisseau, c'est moi qui ai mal, ni mon esprit, ni mon corps. Cette unité substantielle de l'un et de l'autre, je la ressens immédiatement et intimement dans mes émotions et mes souffrances. Mais aurais-je, sans l'amour, une telle preuve pour autrui ? Nullement. Les relations permanentes que j'ai avec les autres sont des relations avec des personnes, dont je pense qu'elles pensent et qu'elles sont des agents de leurs actions. Les relations que j'ai avec l'ami me confirment qu'il est un esprit comme moi, une pensée, avec laquelle je peux confronter la mienne, et qui est comme la mienne, puisqu'il est justement, en ce sens, un autre moi-même. Évidemment, je sais bien que mon ami a un corps. Je le vois, je le touche, pourquoi pas. Je l'embrasse, mais je ne sens pas intimement en moi qu'il est son corps. Au contraire, dans l'amour, je sens en moi que l'aimé ne fait qu'un avec son corps, puisque l'aimer lui, c'est désirer son corps, ou que aimer son corps, c'est le désirer lui. L'amour est la preuve concernant autrui, de ce que la douleur est pour moi, la preuve que l'esprit et le corps sont une seule et même chose. L'aimé est son corps. Il ne fait qu'un avec lui. Je ne me contente pas de le savoir. Je le prouve, je l'éprouve, je le sens, je le vis. Et c'est même cela, l'amour, comme union substantielle du désirant et de l'amical. C'est la preuve vécue en moi de l'union substantielle de l'esprit et du corps en autrui. En atteste la différence entre penser à l'ami et penser à l'aimé. Je me ressouviens de ce que m'a dit l'ami, de ses paroles attentionnées ou affectueuses, de ses conseils, de ses mises en garde, de ses compliments, de ses reproches, en somme de ses paroles, qui sont l'expression de sa pensée. Mais ce qui me bouleverse en l'aimer, ce ne sont pas seulement ses paroles, l'expression de sa pensée, c'est sa voix, qui est l'expression sensible de sa parole. Ce sont aussi tous les signes physiques d'une pensée énervant son corps, les mots de son visage que je lis à livre ouvert, ses mimiques qui disent ses convictions, son port et sa démarche qui incarnent ses résolutions, toutes choses qui ne relèvent ni du corps ni de l'esprit, mais de leur union que j'appelle moi. Tout cela, évidemment, suppose une dose petite ou grande de passionnel, en tout cas non nulle de passionnel. Et c'est là que l'amour se venge. Car le passionnel ne joue pas dans le même sens. Si l'union substantielle de l'amical et du désirant est la preuve vécue en moi-même que l'aimé ne fait qu'un avec lui-même, l'union de cette union avec le passionnel est au contraire la preuve vécue en moi que je ne fais plus un avec moi-même. En aimant passionnément, je me deviens étranger, je m'absente de moi, mes croyances et mes désirs cessent de m'appartenir, ou plutôt de m'obéir. Ils répondent à ce fameux syntagme « je sais bien, mais quand même ». « Je sais bien que l'aimer est tel ou tel, mais je l'aime quand même ». On connaît l'ancienne, si souvent raillée dans la chanson populaire. « C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal du côté cérébral, mais ça m'est bien égal qu'il ait l'air anormal. » Bon, alors, parole de Maurice van der Regen. Et Charlie. Alors, évidemment, en troisième personne, l'aveuglement amoureux est un thème de comédie ou de moraliste. Mais en première personne, le « je sais bien, mais quand même » peut devenir un thème tragique. Car le héros tragique ne rencontre pas seulement des obstacles à sa passion hors de lui et hors d'elle, mais parfois en lui-même et en elle, son objet l'épouvante. Et pourtant, il s'y reconnaît. À la honte de se prendre soi-même en flagrant délit de contradiction, j'aime ce que je ne juge pas aimable, ce qui est le propre de toute addiction lucide, s'ajoute l'horreur d'une attraction repoussante, je désire l'abject. Le héros tragique se reconnaît lucidement dans son propre aveuglement comme Phèdre, ou s'aveugle volontairement quand il devient lucide comme Oedipe. Les trois composantes de l'amour ne joue donc pas collectif. Tel est le drame ou la grandeur de l'amour. C'est comme si elle ne s'entendait pas entre elles. C'est comme si elle ne s'aimait pas entre elles, ne parvenant jamais tout à fait à s'harmoniser. Tantôt, c'est le désirant ou le passionnel qui tire l'amical à Uadia. Tantôt, l'amical maîtrise ses chevaux au risque d'abouli du désir ou d'épuisement de la passion. Ces tendances peuvent d'autant plus difficilement collaborer qu'elles n'ont pas même provenance. L'amitié vient du monde de la socialité humaine, dont elle est la réalisation affective élémentaire. La passion vient du monde des émotions, elle est l'affect sous sa forme obsédante, trop humaine. Le désir est lointainement issu du monde des besoins naturels, l'accouplement dont il est l'expression proprement humaine. Il n'empêche. Ne terminons pas sur cette note pessimiste. Les trois composantes immiscibles de l'amour sont aussi les sources des plus grands plaisirs. L'amitié apporte la joie, la passion l'allégresse et le désir des jouissances. L'amour peut donner tout cela, selon les cas, selon les jours. Il est parfois porteur de joie encore plus grande que celle de l'amitié, parce qu'elles sont magnifiées par le désir ou exaltées par la passion. Et c'est parce qu'il est de nature hétérogène, donc instable, qu'il est le moteur tout-puissant de tant de vies minuscules et le motif de tant d'histoires dans les littératures universelles, chants déchirants, comédies irrésistibles, tragédies bouleversantes, Et de toutes ces histoires réelles ou imaginaires, la philosophie n'a rien à dire. Merci.